Alors, durant le camp de ski, on a eu l'occasion d'aborder différents thèmes, à peu près un thème par jour. Et puis, on avait donc un thème qui était présenté le soir par notre orateur, et le lendemain qui était abordé en petits groupes. Alors, notre orateur, c'était Guy Zeller, et malheureusement, il n'a pas pu venir aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai été invité à faire la prédication. Un des thèmes qui était présenté par Guy, c'était le royaume de Dieu. Et puis c'est un sujet qui est très intéressant, qui est assez complexe, mais très intéressant. Et c'est celui-ci que je désire apporter aujourd'hui. Alors, avant de parler de royaume, il est bon de définir ce que c'est qu'un royaume. Alors, un royaume, c'est un domaine. C'est aussi des personnes, donc des sujets. Et puis le tout, c'est gouverné par un roi. Quand on parle dans la Bible de royaume, le terme, il comprend les notions de royaume, règne et autorité. Et puis, lorsqu'on parle de royaume de Dieu, donc il y a fondamentalement derrière le règne de Dieu. Je tenais aussi à préciser quelques détails. Donc, dans la Bible, les expressions « royaume de Dieu » et « royaume des cieux » sont équivalentes. Et puis, il y a ce qui est « royaume de Dieu »,« vie éternelle » et « salut ». Et ce sont tous des choses qui sont indissociables, qui sont liées. Pour cette prédication, on s'attardera principalement sur le royaume de Dieu, mais c'est vrai que ce sont des notions qui sont liées. Alors, pour revenir sur le royaume de Dieu, le roi, c'est Dieu. C'est lui qui règne. Il règne par ce qu'il est, par sa propre nature. Il y a personne qui l'a désigné comme roi ou qui lui a décerné son titre de roi. Et puis, il y a également personne qui puisse contester sa volonté, contester son trône. Le domaine, c'est l'univers. C'est lui qui l'a créé, c'est son domaine à lui. Et les sujets, c'est nous également. Nous appartenons à Dieu parce qu'il nous a créés. Et puis, comme il nous a créés, c'est vrai qu'on vit dans son domaine, on est soumis à sa législation. Alors, maintenant que ces quelques précisions apportées, nous allons voir une lecture animée d'un texte qui présente assez bien qui semble assez bien résumer tout ce qui était royaume de Dieu. Et ce sera apporté par un autre groupe.
Alors, ce matin, on a du pain sur la planche, ou justement, on n'en a pas encore. C'est pour ça que j'ai amené de la farine. Ouais. Donc, on va commencer à travailler. J'attends de vous des chefs-d'œuvre. Hein? Du bon travail. Commençons. Tiens. Voilà pour vous.
Sur quoi, ça?
Bon. Bon, voilà, au moins je vais vous laisser au travail. Moi, j'ai aussi beaucoup de travail dans mon bureau, alors je reviens ce soir.
Ouais, c'est du
bon travail. Allez, à ce soir.
Il n'y a pas le patron, on fait quoi?
Ouais, reviens.
On verre.
Alors moi, je vais faire du pain avec une farine, avec la farine.
Allez, moi, je vais faire des croissants.
Moi, je sais pas trop ce que je vais faire, alors je vais rien faire en fait.
Bonsoir.
Oh non, il est là.
Je viens constater le fruit de vos cogitations journalières. Alors, je commencerai ici.
C'est magnifique. C'est magnifique.
Oh, il y a deux patrons, pas double.
Ces croissants sont un délice.
Ce travail est un chef-d'œuvre, mes amis. Je vais vous nommer tout de suite chef de la division
boulanger... Non. Chef de la division viennoiserie-pâtisserie. Voilà. Passons ici maintenant le pain. Oh. Ce pain craque et craquant à l'extérieur et en même temps moelleux à l'intérieur. Oh. C'est un travail de maître, c'est magnifique. Je vais tout de suite vous nommer chef boulangère avec promotion sandwich. Yes. Et maintenant à vous.
Moi, j'ai rien osé faire. J'avais trop peur de votre colère. Alors.
Elle a rien fait.
C'est bien triste. C'est bien triste, en effet. Voyez vos collègues. Ils n'ont pas eu peur, ils ont osé prendre des risques.
Ouais.
Et regardez.
Je faisais allusion à.
Et regardez ce travail magnifique. Ah là là, je ne suis pas très content. Enfin, c'est pas grave. Faites-moi quelque chose de ça, vous. À vous maintenant.
Un verre.
Un verre.
J'en déduis que vous n'avez pas beaucoup travaillé.
Non, pas du tout même. Et on vous aime pas.
Vous êtes nul comme patron.
On vous rejette.
Ouais.
Les deux.
Récemment, j'ai fait rénover ma porte. J'aimerais vous la montrer.
Mais non.
Elle est magnifique. Tiens, prends ça. Oh. Vous pouvez même l'essayer. Venez, venez.
Alors, avant de d'aborder plus dans le détail ce que c'est que le royaume de Dieu, je tenais à préciser quelques aspects un peu plus enthousiasmants. Alors, c'est vrai que le royaume de Dieu, c'est caractérisé par la vie, le bonheur, la joie, la justice, la paix, l'abondance, le repos, l'humilité, etc., etc., etc. Dieu nous a créés pour que nous vivions, et puis il sait ce dont nous avons besoin. Quand il nous a créés également, il nous a donné une place. Et cette place, c'était donc de gouverner la terre. Et donc, comme nous verrons par la suite, cette terre est celle qui est à venir. Donc, nous avons un rôle et une tâche dans cette vie. Maintenant, si l'on récapitule un petit peu l'histoire de l'humanité, ça se gâte tout de suite un petit peu plus. Il y a eu d'abord donc le rejet de l'autorité de Dieu par Adam et Ève. Ensuite, il y a eu le rejet de l'autorité de Dieu par Israël, quand ceux-ci ont demandé un roi. Il y a eu le rejet de Jésus. Et on pourrait encore parler du rejet des prophètes, etc. Mais ce qu'on voit, sans trop s'attarder là-dessus, c'est que, de manière générale, l'homme rejette Dieu. Donc, si nous appartenons bien au royaume de Dieu, par le fait que nous avons été créés, on ne peut pas tellement parler de la présence du royaume de Dieu ici-bas, puisque son règne est contesté. L'humanité est en révolte contre Dieu. En fait, ça ressemble un petit peu à un coup d'État actuellement. Suite à ce rejet, nous avons été chassés de ce qu'était le royaume de Dieu. Donc, pour rappel, le jardin d'Éden, c'est plus d'actualité. Si parfois le travail semble un peu pénible, bon, faut pas être trop surpris, c'est une conséquence normale de notre rejet. Et puis la terre actuelle n'est plus le royaume de Dieu, en tout cas elle n'est plus le royaume de Dieu tel qu'il était censé être. Et puis il est laissé dans l'attente du jugement et sous la domination de quelqu'un d'autre. Donc présenter ainsi la vision, elle est assez pessimiste tout de même. Il y a tout de même un côté qui peut être réjouissant, c'est que si nous ne sommes pas encore jugés et condamnés, c'est tout simplement qu'il veut nous offrir un nouveau départ. Donc je disais, le monde actuellement n'est plus sous le règne direct de Dieu. C'est vrai qu'il y a le prince de ce monde qui domine et nous pousse, nous, dans la même direction. Suite à la venue de Jésus, Jésus a renversé cette domination. Et puis, il a établi son règne déjà dans les cieux, et sur la terre, ça reste encore à venir. Le royaume de Dieu, quand il viendra, donc dans toute sa plénitude, ça impliquera donc que, comment dire, qu'il rentrera dans ce règne, et puis que tous ceux qui ne désirent pas de ce règne aussi seront expulsés. Voilà pour les grandes lignes. Maintenant, abordons maintenant les aspects un peu plus personnels. Alors, si nous prenons le passage de Matthieu 5, 39 à 42, que je vais vous lire. « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » C'est donc Jésus qui parle. Et puis, intuitivement, ce qu'il nous demande, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on va aller... On fonce dans une impasse, on voit casse-pipe. Parce que c'est vrai que... C'est comment dire... Ce qu'il nous demande est joli, idéal, mais on sent bien que, comme les autres ne fonctionnent pas de la même manière, on va se faire détrousser, on va se ramasser au final. Et ça vient du fait que le monde, il n'a pas la même motivation que Dieu. Et la motivation du monde est en horreur à Dieu. Si nous reconnaissons que la volonté de Dieu est juste, nous ne pouvons pas réellement agir contre sa volonté. Parfois, on serait tenté de faire le grand écart, de faire jouer au compromis. Ça évite d'être bousculé, de rentrer dans... Comment dire, de se faire dépouiller, etc., etc. Mais cela reste quand même sans issue. Obéir à Dieu, c'est quelque chose qui est un impératif. Et puis c'est vrai qu'on voit bien ça a un coût. Le fait de vivre différemment de tous ceux qui nous entourent, ça produit des frictions. On est un peu à contre-courant de ce qui est ambiant, puis inévitablement, ça va provoquer des problèmes. Mais si on n'obéit pas à Dieu également, ça a un coût. Et puis ce coût, c'est la mort. Jésus, il est venu bousculer l'ordre établi. Il ne l'a pas bousculé de la manière dont les gens de son époque l'attendaient, mais il a commencé à la bousculer par une manière qui nous implique, nous, personnellement, en premier lieu. Et c'est pour ça que le royaume de Dieu, c'est important d'aborder les aspects qui sont généraux, c'est-à-dire justement l'histoire de l'humanité, et puis où est-ce que cela se dirige. Mais c'est vrai que ça passe également par nous, et c'est pour ça que nous allons aborder ici un peu plus longuement tout ce qui sont les aspects personnels du royaume de Dieu. S'intéresser au royaume de Dieu, c'est quand même quelque chose d'urgent, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas dire on va remettre ça au lendemain ou à la fin de sa vie, parce qu'on ne sait déjà pas quand on va mourir. Ça peut arriver, on traverse la route, on s'est shooté par un camion, ça peut être soudain, mais on ne sait pas non plus quand Jésus reviendra. Donc c'est des choses qui sont urgentes et qu'on ne peut pas remettre. Maintenant, il y a plusieurs motivations quand même qui sont là, qui peuvent nous pousser à chercher le royaume de Dieu et son règne dans notre vie. Tout d'abord, il y a évidemment notre statut, notre identité. C'est vrai qu'en tant que sujet de Dieu, eh bien, nous avons à le servir. Et puis, bon, cette motivation, elle reste quand même assez sèche, assez dure. Donc, il y a d'autres aspects également à ne pas perdre de vue. Jésus, quand il parle du royaume de Dieu, il emploie les termes suivants. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. C'est donc dans Matthieu 13, 44. Le royaume de Dieu, il a une valeur inestimable. Et puis c'est aussi cette valeur qui fait notre joie, notre motivation à chercher le royaume de Dieu. Ensuite, il y a également la bonté de Dieu. Savoir que Dieu a pour nous des projets de bonheur, c'est vrai que c'est une grande source aussi de motivation, parce que c'est pas une volonté qui est là pour nous accabler, mais c'est vraiment quelque chose qui est là pour nous faire vivre. Finalement, il y a la dernière motivation qui me semble importante, c'est également que le sacrifice de Jésus à la croix, pour nous, pour nous donner ce nouveau départ, il a eu un tel coût. C'est vrai qu'on ne peut pas tellement passer à côté, négliger la volonté de Dieu. Maintenant, il y a tout de même quelques promesses qui sont importantes et qui rentrent aussi dans le cadre de ces motivations. C'est que l'obéissance à Dieu, elle n'est pas pénible. Elle est même source de joie. Il nous donne sa paix qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Et puis Jésus nous a promis sa présence. Donc durant cette vie, durant les épreuves qu'on aura traversées. et il nous a aussi promis que nous ne serions pas tentés par le mal au-delà de nos forces. Finalement, et puis c'est un petit peu résumé par le verset qui est projeté actuellement, si nous faisons la volonté de Dieu, Dieu il a également promis qu'il pourvoira à tous nos autres besoins. Faire la volonté de Dieu, ça ne signifie pas faire une croix sur nos besoins, ça signifie simplement faire confiance à Dieu pour nos besoins, dont il a totalement connaissance, et qu'il nous a créés, et c'est exactement ce que nous avons besoin. Donc c'est quelque chose aussi où c'est important de garder en tête. Maintenant, par rapport à tout ceci, il y a une chose qui est importante, c'est que la pratique est nécessaire. Il y a une partie qui peut sembler inaccessible, très théorique, mais c'est vrai que ça se découvre peut-être petit à petit en faisant des petits pas, puis c'est aussi durant le fil de sa vie qu'on découvre les bontés de Dieu et également la richesse de sa volonté et de son royaume. Maintenant, si obéir à Dieu, c'est un impératif et puis c'est urgent, et puis génial en même temps, il faut tout de même en mesurer la portée avant de nous engager. Sans quoi, notre engagement n'a pas beaucoup de valeur. C'est vrai que dire oui, puis après, dès qu'il y a un petit souci, tourner le dos, c'est vrai que notre oui, il vaut rien. Alors, nous allons passer maintenant à une petite illustration pratique qui est assez délicate, mais qui me semble illustre bien la difficulté que l'on a à obéir à Dieu, et puis en même temps le coût que cela a. Si l'on reprend le premier verset, ne résistez pas aux méchants, si l'on frappe sur une joue, tend l'autre joue, c'est vrai que c'est pas naturellement ce que l'on voudrait faire. Naturellement, on aimerait répliquer, se défendre. Et puis, cela pose pas mal de questions. Il faut savoir tout de même que la violence, elle n'est pas voulue par Dieu. Donc c'est vrai que si on tolère la violence, on est contre Dieu, en résumé. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se figer dans une attitude passive et tout encaisser sans rien dire ou sans rien faire. Mais notre réponse à la violence, donc violence, là dans le cas présent ici, c'est violence physique, mais ça pourrait être aussi violence verbale, etc., etc., elle est problématique pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que justifier la violence en fonction des circonstances, on se base en grande partie sur le fait que nous nous estimons suffisamment objectifs et maîtres de la situation pour choisir la bonne solution. Et puis avec l'histoire de l'homme à l'appui, ça n'a jamais été le cas. En poussant plus loin, on estime aussi qu'on est capable de définir ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc on continue sur les traces d'Adam et Ève. Et cette prétention, elle nous a séparés de Dieu. À tout ceci, on pourrait répondre parfois la violence est nécessaire, qu'une réponse violente est nécessaire. Ce qui est vrai, mais le risque de déborder de la réaction qui est justifiée à une prétention de se faire justice soi-même est grand. Et puis le risque de ne plus éprouver de l'amour pour son prochain, également. Accepter de répondre à la violence par la violence, il nous fait évoluer quand même dans un terrain miné, où on risque de sauter à tout moment. Et puis ne pas répondre sera un coup. On peut prendre encore comme illustration de ceci, Jésus, qui lorsqu'il a été arrêté, vous vous souvenez certainement, Pierre a tenté de le défendre avec une épée. Et puis Jésus lui répondit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée. Penses-tu donc que je ne pourrais pas faire appel à mon Père ? À l'instant même, il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours. » C'est vrai que Jésus, il aurait pu répondre à l'agression par la force. Il avait légitimement le droit, était agressé sans raison, puis il était contesté au niveau de son autorité. Mais cette réponse aurait quand même été une réponse à court terme. Et puis pour nous, c'est vrai qu'on est quand même heureux qu'il ne l'ait pas fait, parce que c'est vrai que sans quoi on n'aurait pas pu être sauvé s'il n'avait pas été jusqu'au bout. Donc si nous répondons à la violence par la violence, on néglige en quelque sorte aussi ce qu'il a fait lui, à la croix. Donc, dans la mesure du possible, il est préférable de rester en paix avec ceux qui nous entourent. Et puis, les réponses violentes, c'est quelque chose qui doit rester dans le domaine vraiment de l'exceptionnel. Ce n'est pas quelque chose qui doit nous motiver tous les jours. Donc, maintenant que ceci est posé, on voit bien le coût que cela peut avoir. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais en même temps, c'est vrai qu'il, comment dire, il nous a promis également de nous accompagner. Et puis, c'est quelque chose que je désire aussi relever, c'est que notre espérance, elle ne se résume pas uniquement à notre espérance du salut, mais elle est aussi pratique pour tout ce qui concerne les aspects de cette terre. Pour nos difficultés actuelles, pour nos soucis, pour nos besoins également. Et puis, il nous a promis sa paix, sa présence, son aide et ses bénédictions pour maintenant. Donc, dans les difficultés, espérer uniquement pour l'avenir, ça peut être dangereux. Parce que déjà, c'est pas juste. Et en plus de ça, c'est vrai qu'on perd on perd de vue les aspects pratiques de l'espérance et on perd la mise en pratique de cette espérance. Maintenant, je désire encore faire une parenthèse sur l'entrée dans le royaume de Dieu. Après tous ces éléments, c'est vrai qu'on peut se sentir, bien loin de ce que Dieu attend de nous. Et puis, il me semblait bon de préciser deux ou trois choses. C'est vrai que l'entrée dans le royaume de Dieu, elle nous est offerte gratuitement, par le sacrifice de Jésus à la croix. Et puis Jésus, c'est la seule entrée dans le royaume de Dieu. Ce qui veut dire que si nous sommes imparfaits, si parfois on n'arrive pas à faire la volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui va remettre en question notre salut. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très réjouissant et qui change, change notre motivation. La crainte de tomber n'est plus une des motivations à faire la volonté de Dieu. Alors, pour conclure un peu, et puis essayer d'un peu résumer tout ceci, le royaume de Dieu, actuellement, il est en nous. Et puis, l'Église en est la manifestation présente. Parce que c'est vrai que le règne de Dieu en nous se manifeste aussi par nos relations entre nous, entre frères et sœurs. Et puis ça, c'est quelque chose, justement, qui est un témoignage aussi pour ceux qui nous entourent. Actuellement, nous attendons le plein épanouissement du royaume de Dieu, qui se fera donc au retour de Jésus. Et puis la volonté de Dieu ne se réalisera pas parfaitement sur cette terre. Ça, donc, c'est un petit peu plus le résumé de la partie générale. Maintenant, pour la partie personnelle, j'avais envie de terminer sur ce verset. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Il y a dans ce verset la partie impérative de l'obéissance, et en même temps, toutes les promesses de ce que son obéissance n'est pas pénible, et en plus de ça, que cela nous apportera le repos. Voilà.